Bonjour. L'écotaxe sur les vols aériens hier, le recyclage aujourd'hui. La secrétaire d'État Brune Poirson présente son projet de loi pour l'économie circulaire. Arrêter de produire pour détruire et recycler tout ce qui peut l'être. Le principe de la consigne pourrait être remis au goût du jour. On veut tuer le transport aérien et favoriser nos concurrents. Les professionnels du secteur aérien n'apprécient pas justement cette taxe sur les billets d'avion au départ de France. Décision inepte pour le PDG de la compagnie Corsair, nous l'entendrons. Rien à se reprocher, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique conteste sur France Inter les mises en cause de Mediapart qui dénonce son train de vie quand il était président de l'Assemblée. « J'ai diminué au contraire les frais de réception », répond François de Rugy. La relax de Bernard Tapie, un appel du parquet ne serait pas logique, explique la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Mais Bernard Tapie doit rembourser ce qu'il doit à l'État.
Très clairement, M. Tapie doit des sommes à l'État. Il me semble qu'il lui appartient évidemment de les rendre et l'État se mettra en position de récupérer l'argent qui lui est dû.
En attendant de rembourser, Bernard Tapie par sa relaxe va récupérer de l'argent, ce que nous expliquera Charlotte Piret. Dans ce journal également, le déremboursement de l'homéopathie, les salariés des laboratoires Boiron s'inquiètent pour leur emploi. Des commissariats vétustes, des heures supplémentaires qui explosent, c'est un rapport parlementaire détonnant que publie la commission d'enquête sur les forces de sécurité dont le co-auteur Christophe Nejlen est notre invité. Des missiles livrés par la France, retrouvés en Libye, missiles de fabrication américaine, Omar Waman, ils avaient été vendus au maréchal Haftar.
Oui, 4 missiles anti-chars de type Javelin achetés par la France aux États-Unis, saisis en juin dans un camp de combattants pro-Haftar.
Un braquage qui tourne mal à Lyon, près de l'aéroport Saint-Exupéry. 3 convoyeurs blessés, les malfaiteurs sont repartis bredouille. À suivre aussi, bien sûr, le Tour de France, 5e étape, direction Colmar. Le conseil cinéma de Corinne Pellissier, Les Enfants de la Mer, un film d'animation japonais. Et puis la météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Une très belle journée.
Eh oui, bien mieux qu'hier dans le sud. Alors il ne reste que quelques orages en Corse, une averse possible sur le sud des Alpes. Ailleurs, beaucoup de soleil, quelques nuages entre la Manche et les frontières du Nord et des températures en hausse entre 22 et 34 degrés.
Le bulletin météo en fin de journal.
France Inter.
Je triture, répare, nous recyclons. Le gouvernement déclare la guerre aux déchets, les déchets de toutes sortes, et en priorité bien sûr ceux qui ne sont toujours pas recyclés. Le projet de loi pour une économie circulaire présenté ce matin au Conseil des ministres, c'est une écologie au quotidien, comme l'a dit la secrétaire d'État Brune Poirson. C'est entrer dans une économie du 21e siècle où on arrête de produire pour détruire. Le texte d'une quinzaine d'articles sera débattu au Parlement à la rentrée. Le mot d'ordre, plus rien ne doit se perdre. Toutes les filières devront mettre en place un recyclage de leurs produits, Célia Kiré.
Aujourd'hui, 1,5 million de vélos sont jetés chaque année en France. Ce projet de loi vise donc à créer une filière de recyclage pour ces vélos comme pour les articles de sport. Leurs fabricants devront créer un éco-organisme qui s'occupera de la collecte et du tri. Idem pour les jouets, les articles de bricolage ou encore les mégots. Ce projet de loi vise à recycler au maximum. Ensuite, les industriels devront davantage réfléchir à la fin de vie de leurs objets et ils devront les concevoir pour qu'ils soient réparables ou recyclables. Ce texte prévoit un bonus-malus en ce sens, mais il n'est pas encore chiffré. Les équipements électriques et électroniques seront d'ailleurs notés de 1 à 10 en fonction de leur réparabilité. Enfin, les magasins d'électroménager, par exemple, devront systématiquement proposer des pièces détachées d'occasion aux consommateurs qui souhaitent réparer son aspirateur ou son micro-ondes. Le gouvernement veut aussi raccourcir le délai nécessaire pour obtenir ces pièces détachées. Ce délai passerait de 2 mois à 20 jours, précise-t-on au ministère de la Transition écologique. Globalement, ce projet de loi vise à lutter contre le gaspillage. Il prévoit d'ailleurs d'interdire tout simplement la destruction des produits non alimentaires, neufs et invendus.
Parmi les mesures annoncées, également un retour des consignes, y compris peut-être pour les produits plastiques, consignes dont les modalités devront encore être débattues. Pour tout savoir de cette loi sur l'économie circulaire, consultez bien sûr franceinter.fr. Au même moment, c'était hier, le gouvernement a donc annoncé, on en a parlé, une écotaxe sur le kérosène, 1,50€ à 18€ sur les billets d'avion au départ de France, sauf bien sûr pour la Corse et l'Outre-mer. La mesure était réclamée par les écologistes, beaucoup d'associations se félicitent par conséquent, même si d'autres la jugent encore trop timide. Pour le secteur aérien, c'est évidemment le contraire. Trop, c'est trop pour le syndicat de pilotes SNPL qui dénonce une accumulation de charges risquant de pénaliser les transporteurs français. Et c'est ce que dit aussi Pascal de Isaguir, le PDG de la compagnie Corsair, vice-président de la Fédération nationale de l'aviation marchande. Il est au micro de Philippe Lefebvre.
Donc je dirais que la ministre a décidé ça de façon tout à fait jupitérienne.
Elle est inepte sur le plan économique parce que d'abord c'est une taxe purement franco-française, une de plus alors que le transport aérien est déjà asphyxié par le niveau des taxes et des redevances. Je rappelle que sur un billet en France, un billet domestique, le poids des taxes et des redevances est déjà la moitié du prix du billet et qu'on considère que ce que nous supportons déjà, c'est supérieur de 30% à la moyenne européenne. Donc le transport aérien français est dans une situation difficile, on sait qu'il est en déclin. Nous avons perdu 11 000 emplois dans les 5 dernières années, 16 000 sont menacés dans les 5 prochaines et la part du pavillon français a perdu 18 points depuis l'an 2000. Donc en fait on ne fait que exacerber cette situation et nuire à la compétitivité des compagnies. Donc, je pense qu'en fait on ne fait que masquer un problème pour de bouclage, d'un bouclage budgétaire. Je dirais que quand on n'a pas d'idée, quand on n'a pas de politique, pas de stratégie, on crée une taxe. Donc là, c'est le cas. Donc effectivement, on est très remonté.
Le même vent de colère peut s'observer chez les transporteurs routiers, dont le remboursement sur le gazole serait réduit de 2 centimes par litre. On a déjà fait beaucoup d'efforts, expliquent les professionnels du secteur, qui prédisent non pas une diminution du nombre des camions sur les routes, mais un remplacement des camions français par des camions étrangers. S'agissant du transport aérien, il doit contribuer davantage aux efforts de la lutte contre l'effet de serre, a commenté le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, invité de France Inter ce matin, en ajoutant que la France allait porter la bataille à l'échelle européenne et mondiale. François de Rugy, qui est par ailleurs mis en cause ce mercredi par un article de Mediapart l'accusant d'avoir mené grand train quand il était président de l'Assemblée nationale entre 2017 et 2018. Il aurait notamment multiplié les dîners privés organisés avec son épouse pour 10 à 30 invités à chaque fois aux frais de la République. Réponse du ministre sur France Inter, nous n'avons rien à nous reprocher.
Sur les budgets de réception, je les ai baissés, moins 13%. Qu'un président de l'Assemblée nationale rencontre dans un cadre informel, le soir dans des dîners, des responsables d'entreprise, des responsables de la culture. Oui, j'assume totalement que cela puisse se faire. Je suis habitué aux attaques politiques et j'en accepte le principe, même si je sais que très souvent c'est de mauvaise foi. En revanche, les attaques personnelles, je ne les accepte pas, qu'on mette en cause mon honnêteté, alors que moi j'ai toujours joué la transparence. Mediapart me pose des questions, j'ai tout répondu, j'ai donné tout, les devis, les prix, etc. J'ai toujours été pour la transparence, je considère que c'est un progrès, mais j'assume ce que je fais. J'assume ce que j'ai fait et je n'accepterai pas encore une fois d'être attaqué. Je me défendrai et je défendrai ma femme. Oui, elle est à mes côtés, elle fait tout ça bénévolement, bien évidemment, elle n'a jamais mélangé avec son travail. Et moi je fais aussi mon job de ministre avant de président de l'Assemblée nationale sans mélanger avec son travail. Donc vous voyez qu'en l'occurrence, il peut y avoir toutes les enquêtes de la Terre, je n'ai rien à cacher.
François de Rugy ce matin sur Inter avec Frédéric Métezeau. Plus de 200 vies sauvées sur les routes en un an, si l'on en croit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le 80 km/h sur les routes secondaires a une fois une voie, ça marche. Et même, selon la prévention routière, si de nombreux radars n'avaient pas été dégradés, on aurait sans doute atteint le nombre de 400 vies sauvées. En conséquence, les responsables de la sécurité routière renvoient les départements à leurs responsabilités. Les départements qui seront autorisés dans la prochaine loi mobilité à revenir aux 90 km/h sur certaines portions de route. À eux de voir, expliqué ce matin sur France Inter le délégué interministériel à la sécurité routière. C'est tout vu, répond notamment Nicolas Lacroix, le président LR de la Haute-Marne. Il est au téléphone de Julie Pietri.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les panneaux sont achetés. L'implantation des panneaux est calée. On a vraiment analysé route par route, carrefour par carrefour. Donc, on n'a vraiment pas fait les choses à la légère. Bien sûr, on peut avoir des familles qui se retournent contre nous. Encore faut-il vraiment prouver que l'accident est lié à la vitesse. Moi, je suis responsable tous les jours sur mes 3900 km de route départementale. Quand on parle de mobilité, on parle de véhicules, on parle de voitures. Il n'y a pas d'autre type de mobilité quand vous habitez dans un territoire rural comme la Haute-Marne. Pour se rendre au travail, si vous faites aller-retour, on est plutôt sur 50 ou 60 km par jour. Donc vraiment, quand on commence à toucher la voiture, ça crée une vraie colère. Et moi, je l'ai entendu depuis un an.
Donc ça fait, selon la sécurité routière, 60 secondes de perdu par jour.
Peut-être, mais ça fait aussi beaucoup de permis en moins pour les Haut-Marnais, je peux vous le dire. Quand vous n'avez plus de permis en Haute-Marne, vous n'avez plus de travail non plus.
En rappelant que la première responsabilité incombe évidemment au conducteur.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decaen.
Des commissariats vétustes, des équipements insuffisants, des heures supplémentaires à n'en plus finir. C'est un rapport très sombre que publie la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les missions et moyens de nos forces de sécurité. Après 5 mois de visite et plus de 250 auditions, les députés décrivent une situation à la limite de la rupture en appelant le gouvernement à investir massivement. Invité de ce journal, Christophe Nejlen, député UDI des Vosges et co-rapporteur de cette commission d'enquête. Bonjour.
Bonjour.
Alors le constat était connu, hein, mais maintenant il est officiellement reconnu, disons.
Oui, clairement, on avait déjà, bien entendu, on croise tous les jours des policiers, des gendarmes qui nous parlent d'une situation qui est compliquée, notamment au niveau de l'immobilier. Et cette commission d'enquête avait pour but de s'en rendre compte sur place, de se dire aussi bien la partie immobilière, la partie équipementière, la partie effective, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller. Et en effet, les conclusions sont relativement dramatiques, notamment pour la partie immobilière, où on se rend bien compte qu'on a des locaux, que ce soit des lieux de vie ou des lieux de travail, qui ne sont pas dignes de la mission et de l'investissement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien.
C'est ce qui vous a le plus surpris, le plus étonné, la qualité, enfin l'état des bâtiments?
Oui, clairement. Après une visite du commissariat de Fontainebleau, qui est dans un état qui est déplorable, avec des infiltrations dans les murs, avec un mur de parking qui s'effondre, la caserne de Flandre à Dijon, qui pour partie des logements est amiantée ou des problèmes d'électricité. C'est encore plus vrai pour les casernes de gendarmerie. Pourquoi ? Parce que du fait de la CNAS, les familles des gendarmes y habitent aussi. Et à un moment donné, on ne peut pas demander à des personnes qui s'investissent quotidiennement pour notre sécurité, qui s'investissent quotidiennement dans une mission qui est extrêmement importante, de voir eux, leur lieu de travail, leur lieu de vie délabré, mais aussi que leur famille en subir les conséquences.
Et vous avez senti ce découragement parmi les forces de l'ordre, en précisant que c'est un vrai ressenti, c'est une vraie remontée de terrain que vous avez obtenue, puisque vous avez remis des questionnaires directement hein, aux policiers et aux gendarmes.
Alors, c'est une vraie remontée de terrain, parce qu'en plus des 250-300 gendarmes que nous avons pu rencontrer directement en allant sur le territoire, sur le terrain, j'avais mis en place une consultation qui a été répondue par 13 700 policiers et gendarmes, et qui font qu'en effet, plus de 60% reconnaissent que leur lieu de travail, leur caserne, leur gendarmerie ou leur commissariat sont dans un état qui est peu satisfaisant, voire très insatisfaisant.
Alors vous évoquez aussi des problèmes d'effectifs, des tâches indues qui continuent et qui sont un vrai boulet pour les forces de l'ordre.
Concernant les problématiques d'effectifs, c'est surtout dans le cadre du maintien de l'ordre. On l'a bien vu pendant la crise des gilets jaunes, et le fait de réussir à avoir chaque samedi, chaque week-end, une mobilisation qui est assez forte. Et l'une des préconisations est que nous passions les escadrons de gendarmerie mobile à 125 gendarmes et que nous réaugmentions les compagnies républicaines de sécurité de 3 sections à 4 sections.
Mais ça veut dire augmenter les effectifs?
Tout à fait.
Voilà, donc embaucher encore massivement.
Embaucher encore, le terme de massivement, non, c'est embaucher encore. Pour la gendarmerie mobile, ça représenterait 32 millions d'euros.
En passant, vous l'évoquez aussi dans votre rapport, en utilisant mieux la réserve nationale.
Oui, alors cette partie de mise en réserve qui fait que sur le budget de la gendarmerie, le budget de la police, 3% est mise en réserve. Moi, ce que je demande, c'est qu'on mette uniquement ces 3% sur les réserves qui sont manœuvrables. On ne peut pas calculer 3% sur des loyers où dans tous les cas on sait qu'ils devront être payés, ou sur d'autres sortes de dépenses qui dans tous les cas sont fixes. On ne doit calculer cette dépense-là que sur ce qui est manœuvrable, donc sur ce sur quoi on a une marge de manœuvre.
Alors on le disait tout à l'heure, en relevant les effectifs, il y a un moyen, c'est supprimer les tâches indues hein, ou les diminuer.
Exactement. Il faut à un moment donné qu'on supprime les tâches indues. Elles sont nombreuses, elles sont multiples. Elles prennent un temps qui est considérable. Je pense notamment aux procurations, et notamment pour les gendarmes en territoire rural, qui prend un temps en période d'élection, un temps qui est énorme. Je pense aux transferments aussi. Je pense aux gardes d'hôpital. Voilà, c'est un certain nombre de tâches qui sont des tâches indues et qui font que le policier, le gendarme, ne fait pas sa mission pour laquelle il s'est engagé, mais font ces tâches-là. Il y a aussi, bien entendu, toute cette partie administrative, la lourdeur de la procédure qui est remise en cause et sur laquelle il faut vraiment faire des améliorations.
Christophe Nejlen, député UDI des Vosges et co-rapporteur donc de cette commission d'enquête. Merci d'avoir été l'invité de ce 13h. À propos des forces de sécurité, un braquage qui a mal tourné ce matin à Lyon, près de l'aéroport Saint-Exupéry, le braquage d'un fourgon blindé, c'était sur la 43. Trois convoyeurs auraient été blessés. Emmanuel Leclerc, leurs agresseurs se sont enfuis bredouille.
Oui, c'est assez rare dans la région lyonnaise. Les braqueurs se sont trompés de cible. Ils ont choisi le mauvais fourgon blindé qui n'était apparemment qu'un leurre. Les employés de la Brinks qui conduisaient le véhicule ont du coup été sérieusement molestés, mais ils ne sont au final que légèrement blessés. Ils ont été transportés immédiatement à l'hôpital. Il n'y a en tout cas eu aucun tir. Pour le reste, le mode opératoire est toujours très spectaculaire et rappelle celui de 2016 au nord de Lyon. Un fourgon blindé bloqué par deux véhicules à une sortie d'autoroute, sa porte arrière qui explose et ensuite la mise à feu de plusieurs véhicules une fois le braquage effectué pour empêcher toute poursuite, pour ne laisser aucune trace. Là encore, les gendarmes et la police de la sûreté départementale du Rhône se sont déployés. Un hélicoptère a décollé, mais en l'espace de quelques minutes, les quatre malfaiteurs se sont envolés. On était cette fois près de la zone industrielle de l'aéroport de Saint-Exupéry. C'est la police judiciaire de Lyon qui a été chargée de l'enquête et tentera de trouver justement des indices via la police technique et scientifique.
Emmanuel Leclerc. La relaxe de Bernard Tapie, un appel du parquet ne serait pas forcément logique selon Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. On l'a entendu tout à l'heure, ce qui compte pour la ministre, c'est que M. Tapie rembourse les sommes qu'il doit à l'État, un peu plus de 400 millions. En attendant, c'est lui, Tapie, qui va récupérer de l'argent, puisqu'avec la relaxe, toutes les saisies judiciaires effectuées pendant l'enquête ont été levées, soit l'équivalent de 170 millions d'euros, Charlotte Piret.
Il y a là la villa de Saint-Tropez de Bernard Tapie, 500 mètres carrés sur les hauteurs de la ville, son parc de 2 hectares avec piscine, acheté en 2012 par l'homme d'affaires et estimé à 48 millions d'euros. Mais le tribunal correctionnel de Paris a également ordonné la restitution de contrats d'assurance vie, comptes bancaires, parts sociales, diverses liquidités pour plus de 120 millions d'euros. Des biens et de l'argent bloqués depuis 2013 et que Bernard Tapie relaxé peut donc récupérer. Son moulin dans l'est de Paris, son hôtel particulier en plein cœur de la capitale, celui de Neuilly-sur-Seine, n'avaient eux pas été saisi par la justice. Mais si conséquent que soit ce patrimoine, il reste d'une valeur inférieure aux 404 millions d'euros que Bernard Tapie a été condamné à rembourser par la justice civile cette fois. La décision est définitive depuis 2015, mais les modalités de remboursement, elles, font encore l'objet d'une bataille judiciaire. Hier, alors même que le tribunal correctionnel de Paris prononçait sa relaxe, la Cour de cassation rejetait un pourvoi de Bernard Tapie sur son plan de remboursement. L'affaire, qui a depuis été dépaysée à Bobigny, doit être examinée par le tribunal de commerce en octobre prochain.
Après le remboursement, le déremboursement, à propos de l'homéopathie, bien sûr, décision logique pour Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT comprend que le gouvernement se soit aligné sur l'avis de la Haute Autorité de Santé, mais il s'inquiète des conséquences de cette décision sur l'emploi, notamment les 1300 emplois des laboratoires Boiron. C'est pour eux, a déjà répondu la ministre Agnès Buzyn, qu'une période de transition a été prévue, les produits homéopathiques étant encore remboursés à 15% pendant un an. Qu'en pensent les principaux intéressés, les salariés? C'est ce qu'est allé voir Christophe Vincent à l'usine Boiron de Messimy.
À la cafétéria, rebaptisée l'Homéo Café, l'expresso a un goût amer pour le directeur général Jean-Christophe Bessa.
Ce matin, c'est de la révolte, de la colère. On est maltraité, on n'a pas été écouté. On a demandé à être reçu par Madame Buzyn, on l'a jamais été. On se sent pas respecté.
À quelques mètres, des salariés parmi les 1200 du site se disent abasourdis.
Aujourd'hui, on parle de médecine complémentaire, on parle de médecine intégrative et dans le même temps, on dérembourse l'homéopathie. C'est un coup dur pour l'ensemble des salariés et aussi la crédibilité de notre travail au quotidien.
Je vous dis pas un petit peu le couperet qui vient de tomber, donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui une entreprise fleuron dans son secteur d'activité, on prend des risques un petit peu à l'affaiblir. On voit pas pourquoi le gouvernement ne met pas en valeur justement ce type d'entreprise. C'est ce sentiment d'incompréhension.
Une pétition a réuni plus d'un million de signatures sans effet.
On se demande en fait à qui tout ça profite, parce que ceux qui ne consommeront plus d'homéopathie vont consommer d'autres choses qui coûtera certainement plus cher à la sécurité sociale.
Moi je pense juste aux malades qui se voient privés d'une médecine qui ne peut faire que du bien.
Les salariés précisent que l'Allemagne et la Suisse ont décidé de rembourser l'homéopathie. À Messimy, dans les Monts du Lyonnais, Christophe Vincent, France Inter.
Voilà, opinion tout à fait contraire pour les médecins signataires d'une tribune contre la médecine alternative et qui disent regretter qu'on balance encore 130 millions pendant près de 2 ans pour rembourser du sucre. En politique, on devrait connaître en soirée le choix du candidat marcheur à Paris, sachant qu'à Lyon, Gérard Collomb propose à son rival un mandat partagé. Lui d'abord, dans un premier temps, son rival ensuite, après passage du témoin. Si les choses avancent du côté de la majorité, question investiture, c'est tout le contraire chez les Républicains, où on a plutôt choisi de se hâter lentement. Yael Gauze, la commission d'investiture réunie hier soir, a décidé de ne rien décider.
En tout cas, de ne rien dévoiler publiquement sur les villes les plus emblématiques. Pour l'intérimaire en chef des LR, il est urgent d'attendre. Pourquoi voulez-vous qu'on se presse pour une élection locale où les étiquettes n'ont pas d'importance? Jean Leonetti assume le contre-pied par rapport aux marcheurs. Dans des villes aussi stratégiques que Nice, Marseille, Toulouse ou Paris, rien ne sera tranché à droite avant octobre ou novembre. La stratégie consiste à laisser l'adversaire s'épuiser, investir le plus tard possible pour laisser les marcheurs marcher tout seul. Rue de Vaugirard, on fait le pari, après le coup de massue des européennes, qu'une autre histoire peut s'écrire au municipal. La dernière enquête du Cevipof les conforte dans cette analyse. Près de 2/3 des Français interrogés souhaitent que leur maire se représente. Or, les Républicains ont repeint la carte de France en bleu en 2014. Les municipales signeront-elles la fin du dégagisme? C'est ce que pense aussi Christian Jacob, le favori pour succéder à Laurent Wauquiez. Le risque de perdre serait réel dans les grandes villes, beaucoup plus faible partout ailleurs. Donc les LR pas pressés et qui se réjouissent du spectacle donné par la REM à Lyon ou à Paris. Pour Christian Jacob, En Marche cumule tous les handicaps de l'ancien monde sans les avantages du nouveau.
Yael Gauze. C'était un secret de Polichinelle, c'est maintenant avéré. La France a livré des missiles au général Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Au moins 4 missiles de fabrication américaine. Ils ont été saisis dans une base arrière d'Haftar. Missiles qui seraient hors d'usage, selon le ministère des Armées, et n'étaient pas destinés à des forces locales. Omar Waman, dans la confusion qui règne aujourd'hui en Libye, voilà qui fait désordre.
Oui, ces 4 missiles anti-chars ont été saisis après un raid éclair mené il y a 2 semaines par les forces loyalistes. C'est en fuyant précipitamment leur base arrière que ces soldats du maréchal Haftar ont laissé derrière eux un véritable arsenal. La prise de guerre la plus retentissante sont effectivement ces 4 missiles Javelin, des armes américaines que Washington ne vend qu'à ses alliés les plus proches. Selon les révélations du New York Times, ces missiles ont bien été vendus à la France. Le Pentagone précise même qu'ils font partie d'un lot de 250 missiles que Paris a acheté en 2010.
Alors, y a-t-il eu violation de l'embargo des Nations Unies?
Alors, ce transfert en Libye de ces missiles serait d'abord considéré comme une violation des accords de vente avec les États-Unis, ce qui pourrait créer des tensions entre Washington et Paris. Mais effectivement, ce transfert enfreindrait également l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies depuis 2011. Le ministère français des armées nie avoir transféré ces missiles aux hommes du maréchal Haftar. Il explique que ces armes étaient stockées en Libye de façon temporaire et devait prochainement être détruite. Il rajoute que l'utilisation de ces missiles devait permettre de protéger les troupes françaises actuellement déployées en Libye sur des opérations de contre-terrorisme.
Omar Waman. Il fallait s'y attendre à l'instant. L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington, Kim Darroch, annonce qu'il démissionne. Il avait été mis en cause par Donald Trump suite à la fuite de certains câbles diplomatiques. Nous y reviendrons bien sûr plus tard. Et puis stupeur et tremblement à Berlin. Encore, Angela Merkel a été prise d'une 3e crise en moins d'un mois. La première fois, le 18 juin, la chancellerie avait mis ses tremblements sur le compte d'une grande fatigue. Angela Merkel, qui est âgée de 64 ans. Des nouvelles du banquier français Philippe Delpal, accusé d'être à l'origine d'une fraude portant sur 2,5 milliards de roubles, 35 millions d'euros. Il est incarcéré à Moscou depuis le mois de février. La juge moscovite a de nouveau refusé de l'assigner à résidence, comme il le demande. Jean-Didier Nerevoin à Moscou.
Après 5 heures d'une audience marquée par de graves problèmes de traduction qui ont pesé sur la défense de Philippe Delpal, le tribunal a rendu un verdict sans surprise. Le banquier français restera incarcéré jusqu'au 13 octobre. Sylvie Berman, ambassadeur de France à Moscou, était présente aux côtés de Cécile Delpal, l'épouse de l'accusé, au moment de l'énoncé du verdict, une présence fortement appréciée.
C'était vraiment exceptionnel qu'elle puisse être là. Cela montre qu'elle a complètement confiance en Philippe, confiance en son innocence. C'était un soutien énorme et j'espère que cela sera pris en compte par la justice russe.
Le paradoxe, c'est que Michael Calvi, fondateur du fonds d'investissement Bering Vostok, avec lequel travaillait Philippe Delpal, a été assigné à résidence en avril dernier, alors qu'il doit répondre des mêmes chefs d'accusation que le français, une situation plutôt cocasse que Cécile Delpal ne s'explique pas.
Fallait sortir le chef, c'est mon opinion. Pourquoi ils l'ont sorti et pas les autres, alors que c'est vrai que c'est exactement la même affaire, les mêmes arguments? Ça, je l'explique pas.
Mais Cécile Delpal reste combative, elle entend présenter à la cour d'ici quelques semaines de nouveaux éléments susceptibles de permettre à son mari de quitter la prison. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Au cinéma, ce mercredi, il y a bien sûr le nouveau Luc Besson, Anna et son héroïne tueuse pour le KGB, film qui ressemble beaucoup à l'ancien Nikita. Beaucoup plus doux, ce film d'animation Les Enfants de la Mer que vous nous conseillez, Corinne Policier, film japonais adapté d'un manga.
Qui a fait sensation lors du dernier festival d'Annecy. Il faut dire que le film a tout pour plaire, nous en met vraiment plein la vue. Un dessin magnifique avec un vrai sens du détail, un décor très riche autour des fonds marins, jamais sublimé à ce point dans l'animation, et une histoire envoûtante, celle d'une adolescente, Ruka, passionnée de handball, qui après avoir été exclue de son équipe au premier jour des vacances, va se retrouver à tromper l'ennui dans l'aquarium où travaille son père. Et c'est là qu'elle va rencontrer un jeune garçon un peu étrange, Umi, élevé dans la mer par une sorte de lamantin, des dugongs, avec lesquels elle vivra donc d'étranges aventures. C'est un univers très onirique, beaucoup de questions aussi sur l'origine du monde, la naissance de la vie, la connexion avec les éléments et la mer au centre de tout.
Avec une vraie dimension écologique en plus.
Alors où le Japon renoue de manière intensive, on va dire, avec la pêche à la baleine, les enfants de la mer sensibilisent le spectateur à son environnement, magnifiquement dépeint dans le film, et aussi à la nature qu'il faut apprendre à connaître et à protéger. Graphiquement, le film est une explosion de lumière et de couleurs, quelque part entre le 2001 d'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et Terrence Malick de Tree of Life. C'est un film très poétique, très doux, qui vous donnera sans doute envie de redécouvrir ou de relire le manga de Daisuke Igarashi, plusieurs fois récompensé au Japon, qui a inspiré le film. Les dessins sont très fidèles et la maîtrise de cet univers marin absolument incroyable. Coup de cœur.
Corinne Pellissier, Les Enfants de la Mer au cinéma ce mercredi sur la route du Tour, le deuxième jour en jaune pour Alaphilippe. Cinquième étape, Saint-Dié des Vosges, Colmar. Quelques petite côte à franchir qui pourrait lui plaire. Xavier Monferrand, le départ vient tout juste d'être donné.
Effectivement, Yves, une belle journée sur les routes entre les Vosges et l'Alsace pour Julien Alaphilippe. Nouvelle journée en jaune, vous l'avez dit, pour le Français qui va arriver progressivement en Alsace avec effectivement une journée plutôt pour les baroudeurs. Hein, c'est-à-dire qu'on devrait avoir quand même de belles échappées sur les routes du Tour avec une première étape déjà un peu de moyenne montagne avec des jolies côtes, notamment du Haut-Königsbourg. On y sera au kilomètre 109 et puis la côte des Trois Épics est peut-être la plus belle. Au kilomètre 140, ce sera vers la fin de l'étape, on sera dans les 60 derniers kilomètres et dans la route des vins d'Alsace, on sera vraiment dans cette route d'Alsace qui va descendre vers Colmar, 175 kilomètres, donc un petit peu plus pour les hommes du Tour aujourd'hui qui viennent de partir à l'instant de Saint-Dié.
Arrivée prévue vers 17h30, Xavier Monferrand sur la route du Tour avec Jean-André Giannichini. 47 départements sont concernés aujourd'hui par des restrictions d'eau, la sécheresse est toujours là et c'est une journée estivale qui nous attend.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Élodie Calac.
Les régions du sud retrouvent le soleil, quelques nuages tout de même en montagne, ils peuvent donner une averse sur le Mercantour, un orage encore sur la Corse. Notez que Mistral et Tramontane se renforcent jusqu'à 60-70 km à l'heure. Plus au nord, encore du soleil, entre la Manche et les frontières du nord, ça s'ennuage un peu, surtout sur le Nord-Pas-de-Calais où quelques gouttes ne sont pas exclues. Comptez 22 degrés au Havre, 25 à Lille, 26 à Brest et à Nancy, 28 degrés à Paris, 29 à Bourges, Valence, Toulouse et Nice, 30 degrés à Nantes, Bordeaux et Ajaccio, 32 à Perpignan. Perpignan jusqu'à 34 degrés à Nîmes. Demain, les nuages seront plus nombreux, surtout sur le nord et l'est du pays, mais l'ambiance restera estivale, avec des températures qui ressembleront à celles d'aujourd'hui, voire un petit peu plus élevées.